Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine, bonjour.
Bonjour.
Alors, les fois précédentes, nous avions parlé de stress à 4 reprises. Nous avions développé autour de cette notion, autour de ce qu'elle représente et ce que nous pouvons faire pour bien le vivre. Aujourd'hui, nous allons changer de registre tout en restant dans des conseils de coaching. Et nous allons parler de la PNL. Alors, certainement, il y a un grand nombre de nos auditeurs qui savent déjà de quoi il s'agit, mais est-ce que vous pouvez, et ça va être l'objet d'ailleurs des émissions à venir, nous faire découvrir ce qu'est cette fameuse programmation neuro-linguistique, une expression qui peut faire un petit peu peur?
Alors effectivement, je vous propose aujourd'hui de vous parler de programmation neuro-linguistique. Donc j'expliquerai pourquoi programmation, pourquoi neuro et pourquoi linguistique dans quelques minutes. Toutefois, justement, pour les personnes qui nous écouteraient et qui seraient bien documentées sur la programmation neuro-linguistique, je veux préciser tout de suite que je vais vous parler de quelques outils ou de quelques chapitres qui ont un rapport direct avec la communication. Sachant que la programmation neuro-linguistique est un domaine assez vaste et on peut avoir beaucoup d'approches différentes avec ce modèle.
Depuis quand existe-t-elle, la programmation neuro-linguistique PNL ?
Alors, ce sont deux personnes, hein, Grinder et Bandler, qui se sont réunies en Californie dans les années 1970, et qui ont eu l'idée, qui ont eu le désir de mettre en place ce modèle. Donc, il s'agit bien d'un modèle et non pas d'une théorie, hein, puisque la différence entre modèle et théorie, le modèle consiste à décrire un fonctionnement, à décrire donc pour le coup, ici, le fonctionnement du système humain, nos réactions. Donc, on est dans une description. Ce modèle a été construit à partir d'observations. Alors que dans une théorie, on cherche à expliquer. Donc, on va essayer de donner des réponses ou d'interpréter les questions sur lesquelles on fonde notre théorie. Voilà. Donc, en PNL, nous sommes, je le rappelle, parce que ça me paraît très, très important, dans le domaine du modèle, de l'observation, et non pas de l'explication. Donc sur certains phénomènes et sur certains chapitres, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas donner de raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, puisque tout simplement, on a observé ce qui se passait.
D'accord. Donc on n'a pas forcément trouvé les causes en amont.
Tout à fait. Donc je pense notamment tout de suite à deux éléments sur lesquels nous interviendrons. Ce sont la synchronisation verbale et la synchronisation non verbale. Et sur ces deux synchronisations, Grinder et Bandler ont observé que lorsqu'on se synchronisait, la communication était nettement meilleure entre deux personnes que lorsqu'on ne se synchronisait pas.
C'est un fait.
Voilà.
Quelle était la formation de ces deux messieurs pour s'être intéressés à ce genre de choses ?
Alors, Grinder était linguiste et Bandler était mathématicien. Donc, des esprits plutôt rationnels. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler de programmation neuro-linguistique, puisque c'était des domaines dans lesquels ils étaient tout à fait bien formés. Par contre, ils étaient également docteurs en psychologie. Donc, ils ont voulu mettre ensemble ces deux éléments. Et ils ont voulu donc créer un modèle qui leur paraissait important par rapport aux observations qu'ils avaient faites. Et ils ont demandé donc à des consultants, enfin on parlait peut-être pas de consultants à l'époque, mais en tout cas des personnes qui avaient ce rôle-là, des consultants, des psychologues, des psychothérapeutes, voire même des psychanalystes. Donc toute personne qui rentrait en contact avec d'autres, qui voulait établir des liens avec quelqu'un d'autre, d'observer, de faire des reportings, de faire des rapports sur ce qu'il s'était passé pendant les séances en question. Et à partir de là, ils ont créé ce modèle. Et ils l'ont étendu ensuite à des professions commerciales ou à ce que je pourrais appeler des relations professionnelles. Donc on a quitté le domaine de la psychologie, entre guillemets, pour rentrer dans le monde professionnel. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai découvert ce modèle.
Alors, la démarche, comment est-elle présentée dans le contexte que vous venez d'évoquer ? À quoi sert-elle finalement ?
L'idée est de créer un lien avec la personne avec qui on veut communiquer. Donc l'idée est de se dire quand A communique avec B, on a A, on a B, mais on a aussi la relation qui s'est instaurée entre A et B. Et si A rencontre C, il s'agira d'une autre relation. Donc c'est de vraiment prendre en considération que nous sommes trois, en fait, quand nous sommes deux, puisqu'il y a le phénomène de la création de cette relation qui est différente pour chaque binôme. Et donc, on peut se dire que nous ne sommes pas tributaires de cette relation, que nous pouvons créer le lien, nous pouvons modéliser un lien, nous pouvons façonner ce lien.
Alors, ce que vous venez de dire nécessite déjà une certaine prise de recul par rapport à ce que nous vivons.
Exactement. Si nous construisons notre lien, si nous le modélisons, nous devons être dans une position aussi observatrice. Et d'ailleurs, c'est un mot que l'on utilise en programmation neurolinguistique, qui est la position méta. Donc, je parle, j'écoute, j'entends, et en même temps, je m'observe et j'observe l'autre. L'observation a un rôle très très important dans cette démarche de programmation neurolinguistique.
Comment fait-on pour observer? Et sur quelle base, surtout?
Alors, donc... Pour observer, il faut avoir une certaine curiosité et il faut aussi avoir une perception de l'autre, c'est-à-dire il faut aller chercher l'autre, il faut s'oublier en quelque sorte et il faut aller chercher l'autre. Tout d'abord, je voudrais donc amener la première notion de la programmation neurolinguistique, qui est donc liée à l'observation, c'est d'observer que nos représentations peuvent être différentes des représentations du voisin. Donc effectivement, pourquoi nos représentations sont différentes? On répond au premier concept de la programmation neurolinguistique qui est « la carte n'est pas le territoire ».
Alors je vais vous demander, Christine Huchette, de nous expliquer ce que c'est qu'une représentation. C'est peut-être tout à fait clair pour certains, mais je ne suis pas sûr que ça le soit pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, une représentation?
Alors pour cela, je vais peut-être reprendre aussi la définition de la programmation neurolinguistique. Pourquoi c'est un terme aussi compliqué? Parce qu'on se réfère à donc trois domaines. La programmation. La programmation, ce qu'on veut dire, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes programmés dans notre cerveau par rapport à toutes les expériences que l'on a pu avoir et toutes les expériences que notre espèce humaine a pu rencontrer. Donc il y a de l'inné et de l'acquis. Et puis, nous sommes confrontés aussi à nos limitations d'expérimentation humaine. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il est vrai que depuis notre plus petite enfance, si nous avons grandi dans un pays plutôt oriental ou plutôt occidental, nous n'aurons pas les mêmes repères. Si nous avons grandi dans un pays émergent ou en voie de développement, ou alors dans un pays avec des valeurs différentes, nous aurons aussi des réflexes différents. Nous aurons mis en place des programmes différents pour pouvoir appréhender le monde. Et puis, si on devient plus micro, le style de famille dans lequel nous avons grandi, la région dans laquelle nous avons grandi, est-ce qu'on a grandi dans une grande ville ou au contraire à la campagne, et puis quelle école nous avons fréquenté, enfin quels ont été tous les éléments qui ont pu nous influencer pour que nous soyons qui nous sommes aujourd'hui au moment où on se parle. Nous avons donc mis en place des programmes. Mais là, en fait, il ne faudrait pas croire que c'est réservé à la programmation neurolinguistique. Je pense qu'en neurologie, on parle bien de programmation. On peut tout à fait, avec l'imagerie médicale, montrer qu'il s'agit de programmes. Et d'ailleurs, si on se réfère à nos interviews passées sur le stress, on parlait déjà de programmation également sur la peur. Voilà.
Et même si c'est difficile à avaler de s'imaginer qu'on est quelque part programmé.
Oui, mais bon, les programmes se font et se défont. Nous fonctionnons sous forme de programmes, mais nous pouvons très bien choisir nos programmes. Nous avons un fonctionnement qui est assez identique à un fonctionnement informatique, puisque je pense que c'est bien connu que nos fonctionnements ont été un petit peu étudiés et reproduits. Alors, neuro, parce qu'il s'agit justement de choses qui se passent au niveau du cerveau, et aussi on vous parlera des cinq sens. Donc les informations que nous rencontrons, que nous captons à travers nos cinq sens, sont forcément analysées au niveau du cerveau. Et linguistique, puisque Grinder étant linguiste, il avait un attrait particulier pour le langage, et il estimait que le langage avait une part très très importante dans nos représentations, justement, et dans notre personnalité, et que notre façon de s'exprimer était à prendre en considération.
Il y a quelques instants, Christine, vous disiez que la carte n'était pas le territoire. Alors ça peut nous renvoyer à un ouvrage d'un écrivain français, mais ça va bien au-delà, évidemment, que cette remarque.
Donc la carte n'est pas le territoire. Nous commençons régulièrement à parler de ce concept lorsque nous débutons en programmation neurolinguistique. Quand nous l'utilisons en termes de travail sur la communication ou en formation, nous l'utilisons pour dire que nous n'avons pas tous la même représentation du monde parce que nous n'avons pas tous les mêmes éléments pour le faire. Alors quand je dis tous, je pensais là tout de suite, je faisais une différence déjà entre l'espèce humaine et les animaux. Nous avons des registres sensoriels qui sont limités, on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Par exemple, dans notre système auditif, nous n'avons pas le même registre que les chiens, par exemple. Donc déjà, nous n'apercevons pas le monde dans sa totalité, puisque de par ce que nous savons capter, nous n'en captons qu'une partie.
On peut faire le parallèle aussi avec les chevaux, qui ont une vision totalement différente de la nôtre.
Exactement. Donc déjà, en partant de cela, nous nous rendons compte que nous avons une représentation partielle de ce qu'est le monde. Et donc, en cela, déjà, notre carte n'est pas le territoire dans son ensemble. Et à l'intérieur, je dirais, de l'espèce humaine, eh bien, chaque être humain aura des représentations du monde selon justement les programmes qu'il aura mis en place. Et aussi selon sa personnalité, d'où peut-être l'expression « les goûts, les couleurs » peut-être déjà, puisque nous n'avons pas la même représentation et les mêmes goûts pour chaque chose. Et en tout cas, on aura aussi donc des interprétations différentes de ce que peut être le monde et aussi de ce que peuvent être les mots que les personnes vont utiliser.
Donc de ce qu'ils recouvrent.
Exactement, tout à fait. Donc, la carte n'est pas le territoire, va aussi intervenir au niveau de nos émotions, dans le sens où la rencontre avec un phénomène ne va pas déclencher la même émotion chez toutes les personnes. Donc, il faut considérer, quand on rencontre quelqu'un, qu'il a ses propres représentations, c'est-à-dire que la même information ne va pas être analysée, interprétée, vécue pour lui, de la même manière qu'elle serait interprétée, analysée et vécue pour nous.
Eh bien, Christine Huchette, nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui, mais cette réflexion passionnante au travers de la programmation neurolinguistique, nous allons la prolonger, bien sûr, dans une prochaine émission. Merci beaucoup, on aura l'occasion de revenir, je pense, à cette occasion sur les différents sens qui nous animent.
Tout à fait, merci beaucoup Fabrice, à bientôt.
Merci à vous encore, au revoir.
Au revoir.
C'était votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.